Bonjour. Eh bien, je vous remercie d'être venu pour écouter cette petite conférence sur le thème des premiers maîtres de la science-fiction, avec trois auteurs invités qui sont tous les trois des érudits, des historiens et d'excellents spécialistes de la question. En général, quand on s'interroge sur ces sujets-là, c'est plutôt à eux qu'on fait appel. Donc, du coup, ils sont tous là. J'ai donc le plaisir de vous présenter Francis Valéry, qui est tout à fait à droite avec des cheveux un peu plus longs que les miens, qui est également un écrivain. On a remarqué particulièrement ces derniers temps le talent assassiné que je vous recommande chaleureusement. Hugo Bellagamba au milieu, qui est également universitaire et qui est également écrivain à 16 heures, puisqu'il a publié plusieurs romans, dont récemment Tancred, qui a eu un vague prix ici l'année dernière. Ça va. Et Jean-Claude Duniac.
Tu n'as rien dit sur les cheveux de Hugo Bellagamba, ce que je trouve particulièrement...
Moi, j'aime beaucoup sa coiffure. Ouais.
Oui, donc avec une ondulation quand même légèrement supérieure à la tienne. Et c'est vrai, il y a un mouvement qui est quand même beaucoup plus gracieux.
Il y a un côté Bogdanov aussi. Ouais. Bon. Et donc Jean-Claude Duniac avec ses cheveux poivre et sel qui lui vont si bien, que j'ai toujours connu comme ça depuis que j'ai 8 ans, et qui lui-même est un... Merci. Est un écrivain un petit peu de roman, mais surtout qui est très 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 réputé pour ses nouvelles, dont certaines sont même traduites dans des revues de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui est quand même pas tout à fait rien. Donc nous sommes là pour aborder la question des premiers maîtres de la SF. Je vais donc... on peut poser la question dans... On peut tortiller la question dans plusieurs sens, et quand on parle des premiers maîtres de la SF... L'idée, c'est de savoir qui sont les premiers écrivains de SF aussi. Donc, pour vous, quand commence la SF, qui sont les premiers écrivains à vraiment faire de la SF? Alors, si vous avez des trous de mémoire, je peux vous citer des noms. Est-ce qu'on commence à Jules Verne, à Mary Shelley, ou est-ce qu'on descend plus bas la barre à des gens comme Louis-Sébastien Mercier en 1770, Tommaso Campanella en 1723, Cyrano de Bergerac... 1657, Kepler le songe en 1634, William Godwin en 1638, et puis on peut carrément faire le grand saut et aller sur Lucien de Samosate qui écrit en 180 son roman qui s'intitule... Toi tu fais le malin maintenant, tu vas nous le dire.
Non, je ne devrais pas. Non, je ne sais pas. J'ai lu le bouquin, mais je ne sais pas son titre.
Moi aussi, j'ai un trou de mémoire. J'essayais de m'en tirer astucieusement. Mais... L'histoire véritable, merci, de Lucien de Samosate. Ce sont des livres tellement évidents, des choses qu'on manipule tellement souvent que je ne mets même plus le nom du bouquin à côté de l'auteur. Et du coup, ça fait un trou. Voilà. Qui souhaiterait prendre la parole le premier? Francis, peut-être?
Je pense que c'est difficile de parler de science-fiction. Avant que la chose soit nommée. Donc pour moi, les premiers maîtres de la science-fiction, c'est des écrivains états-uniens des années 30. Avant, c'est pas de la science-fiction. C'est ce qui peut apparaître comme vagues origines, post-eventum, quand on est très expansionniste culturellement, mais sinon, c'est pas de la SF. C'est autre chose qui est intéressant et qui... Tout étant, il y a une grande continuité, c'est sûr. Il y a des gens qui, il y a des siècles et des siècles, envoyés déjà par des moyens les plus non scientifiques possibles, des gens dans la Lune ou sur Mars ou je sais pas où, mais pour moi, c'est pas de la science-fiction. Enfin, si vous voulez parler de ça, je vais aller boire un café, puis je reviens juste pour la fin.
Non, c'était juste pour, pour planter le décor au début et...
J'aimerais qu'on fasse une précision sur le mot maître aussi, parce que un maître de la science-fiction, est-ce que c'est un écrivain qui a eu son propre univers et qui reste aujourd'hui extrêmement lisible? Par exemple, Simak, qui est quelqu'un de très original et qui a œuvré, si on veut en parler, on en parlera, mais qui n'a eu aucune descendance, qui n'a influencé absolument personne. Ou Heinlein, qui lui a influencé tout le monde au point qu'il y a la SF avant Heinlein et la SF après Heinlein. C'est quoi un maître? Est-ce que Bester est un maître? Oui. Pourquoi? parce qu'il a fait 2-3 bouquins géniaux, point barre. Est-ce qu'aujourd'hui les gens lisent encore Bester? Est-ce que Bester est cité par les écrivains actuels comme étant une influence? Probablement pas, on s'en fout.
Par Gibson, si.
Alors, avant de revenir à cette question, je voudrais quand même peut-être que Jean-Claude et Hugo donnent leur avis sur les précurseurs de la science-fiction, comme ça, et puis après on viendra sur les...
Soyons clairs, je suis 100% d'accord avec Francis sur la notion de maître, les premiers maîtres de la science-fiction. On ne peut parler de maître de science-fiction qu'à partir du moment où il y a science-fiction. C'est à partir du moment où M. Hugo Gernsback a créé la revue et a permis au genre de s'exprimer et d'être nommé sous cette forme. Par contre, moi, il y a un livre pour qui j'ai une espèce de tendresse particulière, parce que pour moi, il est de la science-fiction avant la lettre, y compris dans sa démarche, c'est le Frankenstein. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est véritablement l'utilisation de la science pour transcender la réalité. C'est vraiment quelqu'un qui utilise la science de son époque, l'électricité, etc., pour transcender la frontière avec la mort. Bon, ça, c'est déjà une démarche qui est profondément science-fictive. Mais c'est aussi un livre qui s'est écrit dans des conditions qui sont elles-mêmes totalement dérangées, totalement tordues. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés, un petit groupe, il y avait Shelley, le poète, et son épouse, il y avait Lord Byron, il y avait Polidori, ils ont décidé d'écrire un truc dans la nuit, dans la journée, et le lendemain de se lire et de faire une espèce de compétition. Alors évidemment, ils ne pensaient pas à Mary Shelley, qui était l'épouse, qui était là pour... Et elle a levé le doigt, elle a dit « Est-ce que je peux jouer moi aussi ?» Elle est allée écrire son truc, et on l'a laissé passer la première, parce que c'était la petite jeune, c'était gentil, on l'a laissé faire. Et elle a défoncé tout le monde en leur lisant Frankenstein, qui était un texte qui est né littéralement dans l'urgence, dans la fièvre, dans la transgression totale, parce qu'elle vivait quelque chose qui était totalement transgressif, et c'était aussi la démarche de science-fiction. Et c'est pour cette raison-là, à la fois par le fait qu'elle est véritablement dans l'utilisation de la science pour défoncer les frontières de la réalité et par sa transgression totale, que je considère que c'est un livre que je mets dans le corpus et que je considère comme étant un des éléments fondateurs. Ceci dit, est-ce une maître de la science-fiction ou une maîtresse de la science-fiction? J'en sais rien parce qu'elle n'a jamais écrit que ça et que d'une certaine façon, on ne peut pas savoir, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre que je rattache au fil, sans problème.
Hugo ?
Oui, merci. Je ne veux pas que tu ailles boire un café, hein. Je veux qu'il reste avec nous, donc je vais quand même répondre, mais reste là. Il a raison sur un point très net, sur un point terminologique, c'est vrai, Francis, c'est indiscutable.
Le mot apparaît en 1929.
Voilà. Mais moi, en tant qu'auteur, je pense qu'il y a des racines de la science-fiction. Alors, c'est pas le sujet de la table ronde, hein, c'est les maîtres, mais sur les racines de la science-fiction... Moi, je rattache le genre qui va éclore après aux États-Unis tout ce que tu as cité. En particulier, moi, je prendrai trois repères, mais je le fais très vite. Hein. Et après, j'ai quand même une remarque. Trois repères, c'est Le Songe de Kepler, hein, 1639, parce que c'est la première fois où on a une mise en scène fictionnelle de la science, hein, de l'astronomie, entre autres. Ensuite, L'An 2440 de Louis-Sébastien Mercier, parce que c'est ce qui connecte l'utopie à la science-fiction et que la science-fiction aura ensuite en tant que telle une démarche utopique ou contre-utopique très fréquente. Donc c'est aussi le 18e siècle et je pense qu'il y a un côté, une influence des Lumières sur la science-fiction plus tardive. Et puis il y a des auteurs qu'on n'a pas cités, des auteurs qui ont fait notamment travail sur l'objet technique comme Rudyard Kipling, qui, à l'égal d'un Jules Verne, dans un certain nombre de ses nouvelles, a travaillé sur la notion d'objet technique et l'impact de la technique sur la sociabilité. Notamment une nouvelle très connue qui s'appelle Sans fil, Wireless, où il examine les conséquences que peuvent avoir sur les rapports entre les individus ou voir sur l'inspiration les ondes hertziennes. Voilà. Hein, donc il y a tout un tas de nouvelles de Kipling qui parfois est un peu oublié. On pense souvent au chantre de l'impérialisme britannique qu'il a été, mais c'est pas que ça aussi. C'est un auteur qui s'est interrogé sur comment la technique change le monde. Donc, un précurseur. Alors, dernière chose, je fais le plus vite possible, pour pas, voilà. Tu as raison, Amazing fait apparaître le mot science-fiction en 1926-27. Hein. Donc, la science-fiction n'existe, si on est sur son terminologique, que lorsque le mot apparaît. Mais les premiers, sauf erreur de ma part, les premiers volumes d'Amazing publient Jules Verne et Wells, qui sont des textes antérieurs à l'apparition du mot. Donc ça veut dire que quelque part, Hugo Gernsback, en publiant... Alors certes, c'était pratique parce qu'il avait aussi besoin de textes. Il fallait enclencher la machine à rêver, la machine à créer des auteurs et créer des textes. Il se lui-même se positionne et reconnaît en les publiant Jules Verne, Wells et autres auteurs précurseurs européens comme étant de la science-fiction.
Et ça, c'était en fait la question suivante que je souhaitais poser. C'est bien que Francis ait mis le débat tout de suite là où il devait être. Quid des Européens de la fin du 19e siècle et du début du 20e? Peuvent-ils être considérés comme des maîtres de la science-fiction ou pas? Et je pense particulièrement à Herbert George Wells, qui lui écrit vraiment essentiellement ce qu'on appelle de la science-fiction, puisqu'après tout, concernant Jules Verne, dont nous on sait que c'est un auteur qui a permis l'émergence de la science-fiction, les universitaires se disputent pour savoir s'il en a écrit ou pas. Bon, il y a cette petite polémique, mais voilà. Et puis il y a d'autres Européens qui écrivent régulièrement de la science-fiction, Ronnie Aîné, des gens comme Gustave Lerouge, comme Maurice Leban, comme Théo Varlet. Voilà. Il y a beaucoup de monde avant l'invention du mot et avant la constitution à la fois du corpus imaginaire et du corpus, voire d'écriture, voire de contenu, de la science-fiction telle que l'a décrit Francis.
Oui. C'est évident, je disais un peu ça pour vous embêter, juste pour être un peu désagréable le matin.
Ça n'a pas marché, on t'aime Francis.
C'est vrai qu'il est tout à fait incontestable que Jules Verne en France, J.H. Rosny Aîné en Belgique et Wells en Grande-Bretagne sont trois immenses et géniales racines de ce qui va devenir peu à peu non pas seulement une littérature, mais un véritable état d'esprit qui consiste à interpeller le réel, à savoir un petit peu ce qu'il en est du réel, de ce qu'on appelle le réel, et de ce qu'il y a de l'autre côté, au niveau de l'envers du monde. Et c'est des gens qui ont commencé à se rendre compte que la technologie prenait de plus en plus de place dans les sociétés occidentales, et ont commencé à se dire, mais toutes ces découvertes scientifiques, ces technologies vont évidemment avoir un impact sur la société, sur les gens, sur les hommes eux-mêmes, sur l'organisation sociale, sur comment on vit, où est-ce qu'on habite, comment on gagne sa vie, comment on se définit les uns par rapport aux autres. Et tout ça se fait en gros à partir de 1850 et de manière, ça s'accélère à 1870. Il y a des gens comme Émile Souvestre, comme Robida, enfin il y a des dizaines et des dizaines d'auteurs qui sont... Robida est un maître absolu de ce que j'appellerais dans ce cas la proto-SF ou la pré-SF, et aussi bien graphique que littéraire. Donc c'est évident que tous ces gens-là sont les premiers grands maîtres. Simplement, c'était juste pour faire le malin un peu que j'ai dit ça, tu vois. Mais bon. C'est plus rigolo de parler peut-être de choses un peu plus récentes.
Oui, mais on va le faire bien sûr. Ouais. Mais tu as tout à fait raison, je te remercie de l'avoir fait comme ça d'ailleurs. Ça lance bien les débats.
Si je peux faire une petite remarque quand même pour soutenir ce que dit Francis, ça fait deux fois de suite que je suis d'accord avec Francis, ça rend le débat un peu mou. Il faut savoir qu'à partir des années 1850, en gros, il y a eu, pas seulement dans la littérature, mais dans tout un tas de formes d'art, il y a eu une intrusion de la technologie, non pas en tant que facilitateur de choses, ça permettait de faire des choses, mais en tant qu'interrogation sur le monde, interrogation sur le réel. On a commencé à avoir des mouvements artistiques, des mouvements comme le style art and craft, ou plutôt l'art nouveau après, qui étaient véritablement réfléchir à ce que la science nous dit. On a eu le futurisme italien, on a eu des gens qui, au lieu de faire un lit ou une commode pour mettre ses chaussettes, en réfléchissant, en disant il faut que le tiroir soit profond et qu'il tienne tant de chaussettes, disaient il faut que la forme soit aérodynamique, parce que ça correspond à l'esprit du temps qui va vite. Or, l'aérodynamisme pour une commode, je vous garantis que ça ne sert rigoureusement à rien. Mais c'était une démarche de pensée qui disait « La science n'est pas seulement un objet qui nous sert à faire des choses, c'est une façon de penser. » Et le fait de dire que la science est une façon de penser le monde, c'est la racine même de la science-fiction. C'est la chose sur laquelle on s'appuie, c'est le levain à partir duquel on a commencé à construire des choses. Et un certain nombre d'écrivains ont participé à ces mouvements, ont écrit des manifestes, et un certain nombre de manifestes artistiques, de peintures, sont des œuvres de science-fiction en elles-mêmes. Un certain nombre de manifestes de Marinelli, par exemple, sont des œuvres de science-fiction. Donc la démarche n'était pas seulement propre à quelques individus qui se posaient cette question-là, elle était, je dirais, générale sur l'ensemble des arts. Et de ce côté-là, c'est extrêmement intéressant de se dire que c'est en Europe que ça s'est passé. Là, on a vraiment anticipé les États-Unis de pratiquement plus d'un demi-siècle, je dirais, clairement.
Oui, tout à fait d'accord. Avec peut-être un petit bémol, c'est que on parle quand même de science-fiction littéraire avant tout. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit, en fait, je suis d'accord avec toi, elle s'inscrit dans un mouvement, mais elle en est peut-être la partie la plus engagée, la plus visible, mais Tout n'est pas science-fiction non plus. Il faut, se garder aussi de tout vouloir récupérer pour nous, entre guillemets.
Je suis d'accord avec toi. La science-fiction littéraire, c'est celle du discours, c'est celle qui, d'une certaine façon, formalise les choses. Mais la démarche consistant à dire la science est fécondante dans notre regard sur le monde, et ça se traduit par le Beauce, ça se traduit par un certain nombre de choses, c'est quelque chose qui date pratiquement de 1870, et véritablement le mouvement anglais des arts and crafts, c'est l'épitomée de cette démarche-là. Donc c'est pas étonnant que la science-fiction ait joué, ou la proto-science-fiction ait joué cette espèce de rôle en Europe dans ces années-là, à la fin du 19e et au début du 20e, ça faisait partie d'un courant plus général, à mon avis.
Je pense que c'est important qu'une commode puisse être aérodynamique. Je veux dire, ça a quelque part la même importance qu'un Macintosh ressemble pas à un PC, ou qu'en 1959 les ailerons des Cadillac ressemblaient pas aux voitures européennes. Je veux dire, enfin, je dis pas ça purement gratuitement pour dire des choses qui vous font rigoler. Je veux dire, c'est quand la science-fiction, c'est aussi avant tout une esthétique. Et quand on installe autour de soi des objets qui ressortissent une certaine esthétique et qu'on se sent bien là-dedans, on entre, enfin, ça fonctionne. Il y a une symbolique qui se met en place et on arrive à fonctionner soi-même différemment que si la commode était une commode du Beauhaus, par exemple, que j'aime beaucoup aussi, mais alors qui serait juste carré, parce que le Beauhaus, c'est la fonctionnalité qui fait la beauté, et donc ça sert à rien de tarabiscoter. Et on peut aimer à la fois le Beauhaus et les commodes qui ont des ailerons de Cadillac, par exemple. Mais c'est important, la forme des choses, parce que c'est vrai ce que tu dis, hein, Jean-Claude, je suis pas en train de te contredire du tout, mais c'est extrêmement important.
Je suis désolé, on va trouver un moyen de s'engueuler, parce que sinon ça va vraiment pas décoller comme débat. Hein.
L'installation de cette esthétique autour de soi, alors c'est la science-fiction, ça peut être autre chose. Moi, j'ai longtemps vécu dans des univers de SF, maintenant je vis dans des univers extrêmement campagnards, mais je veux dire, Simac aurait pu être mon voisin aussi, hein, donc, et ça a transformé son environnement. Là, on arrive à la circulation de l'information, non pas par la causalité, mais par le biais de la synchronicité. Installer autour de soi un certain environnement, ça consiste aussi à se modifier soi-même de l'intérieur. Et un écrivain de SF, c'est... Bon, j'arrête, ça devient trop compliqué.
Non, mais c'était important à dire.
Juste pour ajouter quelque chose sur l'esthétique...
Je sens qu'on va faire un débat sur la forme des commodes.
Non, pas sur les commodes, mais juste par rapport à l'environnement esthétique, c'est-à-dire ce qu'a dit Francis, le fait d'avoir des objets qui créent comme ça une esthétique qui amène peut-être à une vision du futur. Jean-Louis Trudel disait... lors d'une réunion il y a quelque temps sur les racines de la science-fiction, etc., que les auteurs de science-fiction américains avaient été particulièrement marqués et influencés par l'exposition universelle de New York. Alors, je ne sais pas si c'est 1930 ou 1939, je crois que c'est l'exposition de New York de 1939, où notamment il y avait eu, le thème c'était World of Tomorrow, et il y avait eu notamment General Motors qui avait fait tout un pavillon sur les formes du futur. Et on sait, Jean-Louis Trudel, qui est à la fois auteur et chercheur canadien en histoire des sciences notamment, avait expliqué qu'ils avaient été influencés, c'est-à-dire en allant voir cette exposition et en allant voir ces formes nouvelles, ça avait été des déclencheurs d'imaginaire. Et je pense que c'est ça aussi l'auteur de science-fiction, c'est quelqu'un qui va avoir des déclencheurs d'imaginaire qui, pris séparément, ne sont pas de la science-fiction, mais qui sont les éléments constitutifs du changement qui se crée en lui, qui lui permet d'écrire.
Alors, c'est vrai qu'on a un exemple en Europe tout à fait... ce que tu dis est tout à fait juste. En Europe, on a eu en 58-59 à Bruxelles l'exposition universelle avec l'atomium, et avec par exemple le pavillon Philips où Edgar Varèse avait composé une pièce en quadriphonie qui était diffusée là, et ça a eu la même influence sur des gens. On s'en rend compte quand on lit des articles dans la presse de l'époque, dans fiction il y a eu un article, un reportage sur cette expo universelle. Moi j'y étais, j'étais dans mon landau tout petit, alors j'en ai pas des souvenirs, mais mes parents m'ont dit que j'y étais, alors je me dis que peut-être que ça m'a un peu chamboulé. Mais...
Alors on va peut-être coller au sujet du débat quand même, même si vous avez envie de continuer... sur les chaussettes et les commodes. Enfin bon, après c'est tout à fait normal que, enfin, je pense que tu disais tout à l'heure, Francis, que des artistes des artistes comme vous, des auteurs, des écrivains, vous attachiez de toute façon à la forme des choses. C'est quand même aussi ce qu'on attend de vous, finalement. On va se recentrer sur le débat sur les premiers maîtres de la science-fiction, maintenant. Sur les écrivains américains du début du XXe siècle. J'ai écouté attentivement la liste d'auteurs que tu as cité tout à l'heure, Francis, et je me posais la question suivante. Est-ce qu'on peut considérer les premiers auteurs de space opéra américains, des gens comme Jack Williamson, comme Doc Smith et autres, comme les premiers maîtres de la SF? Parce qu'après tout, ils ont eu de fait une descendance, puisque comme ils étaient les premiers, tout le monde a fait comme eux. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de... Oui, vas-y, Hugo.
Il y a une question qu'on n'a pas tranchée. Alors, pour revenir au cœur du débat, c'est ce que disait Francis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un maître?
Qu'est-ce qu'un maître?
Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'un maître?
C'est ça. Est-ce qu'un maître, c'est quelqu'un qui a une descendance, qui imite et reprend et prolonge ce qu'il a fait, ou c'est quelqu'un qui, comme tu l'as dit, a livré des romans
éblouissants,
inoubliables, mais pas forcément sans descendance. Ouais. Est-ce qu'il faut les deux? Moi, je pose la question.
Ah, c'est vrai.
Est-ce que pour être considéré comme un maître en littérature, en science-fiction, est-ce qu'il faut les deux? Est-ce qu'il faut à la fois avoir une descendance et à la fois avoir livré des textes brillants? Si c'est les deux conjugués, il n'y en a pas beaucoup, à part Heinlein.
Disons que quelqu'un qui a donné envie, je pense à eux, Doc Smith, par exemple, c'était superbement mal foutu, mal écrit, tout ce que vous pouvez imaginer, mais ça donnait quand même vachement envie. Moi, j'ai lu ça quand j'étais gamin, je me marrais bien.
On a tous lu ça ici
quand on était gamin. Bon. Donc, pour moi, j'aurais tendance à lui coller effectivement le terme de maître au sens affectueux du terme, au sens où quelqu'un qui vous libère dans la nature en vous disant « Tiens, il m'a quand même collé une envie ». Et ça, c'est quand même la chose la plus
importante. Déclencheur d'imaginaire, déclencheur d'envie d'écrire aussi pour certains. Donc
on a vu arriver tout d'un coup effectivement toute une série de gens qui avaient déplacé le terrain de jeu de la littérature, qui à cette époque-là quand même était extrêmement varié. Poe avait découvert des tas de nouveaux terrains de jeu, il y avait eu des tas de choses, mais il l'avait déplacé encore plus loin. Il prenait des planètes, il les fracassait les unes contre les autres, ils amenaient les gens d'une autour d'étoiles lointaines, etc. Donc on se disait, c'est super, ils viennent de nous faire cadeau, tous ces gens-là, d'une espèce de nurserie géante, d'un bac à sable immense dans lequel tout ce qu'on a à faire, c'est prendre notre seau et aller bâtir nos propres châteaux. C'était formidable. Et à ce stade-là, effectivement, ils ont été peut-être pas des maîtres, mais au moins des aventuriers, des pionniers, des défricheurs et des gens qui ouvrent les portes. Or, les gens qui ouvrent les portes, pour moi, ce sont quand même des maîtres.
Francis ? Non ?
Oui, bah, c'est vrai que Doc Smith...
C'est toi le plus spécialisé sur ces époques-là, ici, sur le plateau.
Doc Smith, c'est totalement illisible.
Ouais.
Même à l'époque, c'était déjà totalement illisible, mais ça a eu un impact considérable. Et c'est vrai. Donc, si on fait l'histoire de la SF et qu'on cite les gens qui ont eu une importance capitale, c'est évident qu'il faudra citer Doc Smith, même si ça serait bien plus intelligent dans le même registre de citer Campbell, avec des romans comme Le Machine Suprême. Mais je suis d'accord. J'ai pas entièrement entendu, c'est pour ça, mais je suis d'accord.
Comment ? Vas-y.
Alors moi, je ne vais pas dire simplement que je suis d'accord. Parce que... Non, peut-être que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être finalement, ce n'est pas l'important d'avoir un grand maître. Peut-être que la science-fiction, qui est une littérature qu'on considère volontiers, peut-être parfois à tort, mais je pense quand même de façon assez fondée, comme une littérature collective, transversale, intertextuelle, où les auteurs se connaissent, constituent des liens de nature quasi familiale entre eux et se prête des idées, s'échange des idées, s'échange des versions, des approches. Peut-être que l'idée, c'est pas d'avoir un grand maître, hein. Peut-être l'idée, c'est d'avoir plusieurs petits maîtres. Il y avait une série qui s'appelait Les Petits Maîtres de la science-fiction. C'était André-François Riault qui publiait ça dans Bifrost.
Dans Bifrost, voilà. Oui, tout à fait.
Peut-être que c'est bien d'avoir comme ça cette image plutôt d'une science-fiction portée par une collectivité de petits auteurs très, très, pas forcément pris séparément comme étant des maîtres définitifs, mais qui s'inscrivent dans une espèce de collectivité. De maîtres complémentaires les uns des autres. Je pense à Simac, Charles Arnès, enfin tous les voilà. Puis même en France, tous les auteurs français. Il ne faut pas oublier aussi les maîtres français.
Mais sont importants. Nous aussi des différences d'approche d'un pays à l'autre. Par exemple, en France, peut-être plus aujourd'hui, mais quand j'étais jeune lecteur de SF, Van Vogt était considéré en France comme l'écrivain de SF américain absolu, suprême, maître incontesté, incontestable du genre. Dans le même temps, aux États-Unis, plus trop grand monde savait qui était Van Vogt. Par exemple, Asimov, est-ce que Asimov est un maître ?
Asimov, ça, c'est une bonne question.
Asimov, c'est un type immensément connu qui a fait des tas de bouquins sur lesquels il a mis son nom, qui ont été faits par d'autres gens. Et, enfin, je veux dire, Asimov, c'est qui ? C'est un type qui a fait une poignée de nouvelles intéressantes, qui ont été collées les unes derrière les autres pour faire une petite poignée de livres intéressants qu'on considère comme des romans qui en fait sont des recueils. Je pense à Fondation, des choses comme ça. Et il a cette espèce de stature colossale, mondiale, planétaire, alors que c'est quelqu'un qui... Aux États-Unis, on considère qu'il écrit bien parce qu'il utilise des mots de plus de 3 syllabes. Il utilise cet anglais dont les racines sont plutôt latines, plutôt que germaniques, alors que, par exemple, Fritz Leiber, qui utilise un anglais beaucoup plus germanique d'origine, est un auteur... C'est Asimov à la puissance 1 million, Leiber. Et il n'est pas, je ne sais pas s'il est perçu comme un grand maître de la science-fiction ou du fantastique, alors que de mon point de vue, c'est un écrivain qui laisse Asimov loin, 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 loin. Enfin, c'est,
mais il n'a pas eu la même descendance non plus. Je veux dire, Asimov a quand même influencé tellement de monde.
Oui. Il a influencé qui, Asimov ? Il a influencé quel écrivain, Asimov ? Il a été lu par des tas de gens, mais il a influencé personne.
Moi aussi. Enfin, Hugo ? Enfin, Hugo n'est pas d'accord. Ça y est, ça attaque.
Non, mais là, je suis pas d'accord du tout. Je suis même absolument pas d'accord. Non, il faut pas. Alors, c'est vrai que les trompettes de la renommée sont mal embouchées dans le sens où il y a des gens très brillants qu'on connaît pas, et puis il y a des gens moins brillants qui sont devenus comme ça des icônes. C'est vrai. Peut-être que la renommée asimovienne est un peu trop grande. Peut-être. Et c'est vrai qu'à côté, il y a des gens beaucoup plus brillants, beaucoup plus. Peut-être. C'est vrai. En même temps, discréditer aujourd'hui Asimov, je suis désolé, mais tout le monde le fait. Je ne cesse d'entendre aujourd'hui des gens qui minotent sur Asimov. Asimov, c'est mal écrit. Asimov, nanana. Asimov, ouais, c'est suranné, c'est obsolète. C'est... Ben non. Non. Et non. Asimov fait partie de l'histoire de la science-fiction. C'est un auteur majeur. Fondation, c'est l'un des plus beaux cycles de science-fiction et de space opéra, inspiré de la chute et du déclin de l'Empire romain d'Occident par Gibbon, et mettant en scène une des plus belles sciences imaginaires qui est la psychohistoire. Je veux dire, déjà, ça, rien que ça, ça suffit à mettre Asimov, pas forcément au firmament, mais au moins dans le top 10 des auteurs qui ont marqué l'histoire du genre. Donc c'est un maître, et je vois mal comment on peut contester ce rang de maître à Asimov. Après, c'est peut-être pas lisible aujourd'hui, je parle même pas des trois-là de la robotique, hein. Là aussi, quoi, je veux dire, bon, posé par Campbell, c'est vrai, mais quand bien même. je le connais bien, mon Francis, ça, je fais attention. je veux dire, et attention, hein, qu'est-ce qu'on appelle une œuvre ? Mais, parce que c'est la rencontre entre un auteur et un éditeur. Moi, j'aurais jamais rien publié de digne de ce nom, d'ailleurs, j'ai peut-être pas publié grand-chose digne de ce nom, mais ce que j'ai publié de digne de ce nom, c'est grâce aux éditeurs, hein, et à la rencontre, au travail avec les éditeurs. Hein. J'aurais pas eu Gilles Dumais, André-François Ruault, Olivier Girard et tous les autres qui m'ont lu et accompagné. Il n'y aurait pas de Hugo Balagamba ici sur scène avec vous en tant qu'auteur. Donc je veux dire par là, Campbell a joué un rôle très important et tout le monde le sait, enfin en tout cas c'est incontestable. Asimov avait peut-être pas le talent aussi étendu, aussi important qu'on lui prête aujourd'hui, quand bien même ça reste un maître. Et moi, Asimov m'a influencé autant que Silverberg, autant qu'Heinlein, autant que Michel Jury, autant que Gordon Smith, que j'aime beaucoup. Je me rappelle quand j'étais gamin, quand il est mort, enfin quand j'étais plus jeune, on va dire, quand il est mort en 92, j'étais en deuil, quoi. C'est con, mais j'étais en deuil, moi. Et dans l'année prochaine, c'est les 20 ans de la mort d'Asimov. Hein. Et Asimov, ça reste fondation, ça reste une poignée, et c'est vrai, une poignée de nouvelles, mais quelle poignée quand même, hein. J'ai quelques nouvelles sur les robots qui sont donc non, moi je m'inscris en faux là.
Il y a ces nouvelles policières aussi qui sont et très très sympas, hein, le club.
Je crois qu'on fait toujours une erreur quand on essaie d'appliquer à un écrivain d'il y a longtemps, parce que c'était quand même il y a longtemps, nos grilles d'analyse de ce qu'est le bien écrit de maintenant. C'est vrai que quand on lit avec le regard de notre époque, c'est clair. Mais considérer que la valeur de quelqu'un est basée sur la grille que l'on applique maintenant, ce n'est pas juste. À l'époque, Asimov était justement quelqu'un de très apprécié parce qu'il avait une écriture extrêmement blanche, bien explicative, qui prenait le lecteur par la main, qui le guidait, qui ne le lâchait pas, qui était très pédagogue d'une certaine façon, et qui, par rapport à des concepts qui étaient ébouriffants et nouveaux de cette époque-là, faisait justement le travail d'acclimatation. On peut remercier Asimov pour au moins cet aspect-là, c'est qu'il a acclimaté toute une génération de gens à un certain nombre d'idées qui maintenant nous paraissent relativement simples, les robots, les lois de la robotique, même ne serait-ce que l'existence d'une science imaginaire comme psychohistoire. Mais à cette époque-là, c'était une véritable révolution copernicienne dans l'esprit des gens, et en particulier dans l'esprit des jeunes. Et Asimov avait ce côté justement maître, mais maître au sens pédagogue à ce moment-là. Au sens, vous allez voir, je vous explique avec des mots simples, avec des phrases simples, avec des mises en situation simples, qui maintenant nous paraissent naïves, qui nous paraissent quelquefois complètement déformées d'ailleurs, mais qui à l'époque étaient la seule façon d'amener cette génération à une espèce de prise de conscience. Et je crois que de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec Hugo. Moi, je reconnais clairement l'importance d'Asimov, même si je sais aussi que j'ai prêté fondation à une amie il y a quelque temps de ça, il y a 2 ans, qui me l'a rendu après 2 jours en me disant « il n'y a rien pour moi là-dedans, il n'y a pas une nana ». Et c'est vrai, il n'y a pas un personnage féminin dans Fondation. Je crois qu'il y a une fille qui apporte les cafés à un moment donné, je veux dire, mais il n'y a pas un personnage féminin. Ça élimine quand même 50% de l'humanité. Mais malgré tout, ça reste quelqu'un qui a fait ce travail pédagogique. Et rien que pour ça, je pense que je lui colle le tampon. Allez, oui. Si on vote, je crois qu'on est 2 sur 3 à lui coller le tampon.
Et ça ne veut pas dire l'idolâtrer, hein. Ça veut juste dire qu'il a été important, il a joué un rôle important, et quel que soit le contexte ensuite, ce rôle existe.
C'est en écoutant ce que disait Jean-Claude, à un moment j'ai pensé qu'il était en train de parler d'Enlein. Oui. Non, c'est bien d'Asimov dont tu parlais.
C'est bien d'Asimov dont
tu parles. De cet auteur pédagogique qui a amené des tas de gens à la lecture. Tu parles de Paul French, là, moi j'entendais les juvéniles d'Enlein et tout ça.
Oui, je suis d'accord aussi pour Enlein. À la différence étant qu'Enlein était un vrai écrivain, là, qui se relie stylistiquement maintenant avec autant de plaisir, ce qui n'est peut-être pas le cas d'Asimov. Peut-être plus encore, mais plus encore Asimov avec de a fait ce travail-là. Et il l'a fait un certain nombre d'années avant Enlein, quand même, aussi.
Qu'as-tu dit, Hugo ?
Non, mais alors, d'abord, Enlein, ce n'était pas le sujet, puisqu'on parlait d'Asimov. Donc, évidemment, là, je me suis inscrit en faux. Après, sur Enlein, je suis mal placé pour être... je suis à 200% d'accord sur la primauté d'Enlein, en particulier pour la partie qui m'intéresse le plus de son œuvre, qui est les juvéniles, en particulier, et la pédagogie, et la mise en œuvre de la science-fiction comme pédagogie du réel, c'est incontestable. C'est pas la peine que j'en parle plus longtemps. Mais attention, tu disais aussi lisible aujourd'hui, d'abord parce que la plume d'Einlein est une plume qui est particulièrement lisible, qui prend le parti de la ligne claire, de l'explication, sans jamais arrêter l'action en cours, etc. Bon, on pourra en parler pendant longtemps. Mais c'est aussi parce qu'il y a tout un travail aussi, et peut-être qu'il faudrait le mener sur Asimov d'ailleurs, il y a tout un travail d'actualisation, de révision des traductions des juvéniles d'Einlein, le livre de poche sous la houlette de Gérard Klein en particulier, aussi Terre de Brume, ont entrepris avec des travaux universitaires en parallèle de rééditer l'œuvre d'Einlein, de reprendre les traductions, de les corriger sur le plan scientifique, de les actualiser sur le plan stylistique parfois, de les compléter parce qu'il y avait eu des parties de traduction qui avaient été coupées, etc. C'est un vrai travail qui est en cours sur Einlein. Aujourd'hui, vous avez un Einlein en français à votre disposition qui est meilleur encore que celui qui était à disposition des lecteurs dans les générations précédentes. Ce travail-là sur Asimov, enfin à ma connaissance, il n'a pas été fait. Donc peut-être que s'il était fait, on ne dirait pas tout à fait la même chose, même si, bon, voilà.
Mais je m'aperçois que nous sommes tout à fait d'accord sur Asimov. C'est-à-dire, Asimov, c'est effectivement l'auteur d'une poignée de nouvelles géniales qui ensuite ont été collées pour donner Fondation. Et puis c'est l'auteur d'une poignée de nouvelles géniales qui ont été collées pour ensuite donner Fondation. Voilà, tu vois.
Il y a quand même aussi toutes les nouvelles sur les robots et tout ça.
Sauf que Campbell. Ce qui est quand même un petit peu dommage.
Mais est-ce que, du coup, je t'interromps, est-ce qu'on peut séparer dans le couple auteur-éditeur, est-ce qu'on peut les séparer ? Est-ce que l'un a plus de part que l'autre dans le résultat final, dans l'œuvre publiée ?
Campbell était un type génial qui avait des idées géniales, il était extrêmement généreux, il donnait plein de choses gratuitement. Et puis Asimov était à l'époque quelqu'un de très jeune qui était sympa, et Campbell avait envie d'aider ce jeune mec qui en plus était brillant, était doué.
Peu de talent quand même.
C'est vrai que, oui, il était brillant. Asimov, c'était un mec brillant, doué, curieux de tout, qui bossait vite. Le seul problème aujourd'hui, c'est que tu vas dans une librairie. Mis à part Fondation et mis à part les 2 premiers recueils des robots, on est d'accord. Tu vas dans une librairie, chez PDF ou ailleurs, ça existe plus, ça a dû être réédité, tu prends au hasard 5 livres d'Asimov, tu as toutes les chances de tomber sur 5 merdes. C'est ça le problème, si tu veux. C'est Asimov, ce qui est dommage, qu'il ne soit pas mort beaucoup, 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 beaucoup plus tôt. Et là, ça serait incontestable que ça serait un maître immense. Mais simplement, il a passé les 4/5 de sa vie à faire des anthologies par d'autres gens et à mettre son nom dessus pour que ça se vende. Et puis après, à essayer dans un espoir désespéré de tout réunir, tout ce qu'il avait écrit à droite à gauche dans une incohérence totale, essayer de faire en sorte que ça prenne une espèce de pseudo-cohérence.
Toute son histoire du futur.
Toute son histoire et tout. Et ça, c'est à la fois puéril et pathétique, et toutes ces petites nouvelles écrites partout, publiées partout parce qu'il était connu, ensuite reprises dans des recueils il y a des nouvelles d'Asimov, mais on est mort de rire. Dans un fanzine on publierait pas ça, je veux dire. C'est ça mon problème avec Asimov, hein. C'est que c'est un type qui avait tout pour devenir un mec génial, et qui a été un mec génial, et qui ensuite est devenu un vieux machin. Alors là où je regrette, c'est que moi, ça fait des années que je ne mettais plus les pieds dans ce genre d'endroit, parce que j'avais d'autres choses dans ma vie. Je reviens un peu par hasard, avec plaisir, hein. Et donc je découvre qu'il y a tout un tas de gens, d'après ce que tu dis, qui disent du mal d'Asimov depuis quelques années. Mais je ne savais pas, hein, je ne m'inscris pas dans... Moi, ça fait très longtemps que je dis du mal d'Asimov.
J'étais précurseur sur les enfants.
J'étais précurseur.
Mais ce qui est bien, c'est que...
Le précurseur.
Non, mais ce qui est bien aussi, c'est que Francis vient de vous démontrer, donc avec une grande habileté, que le seul véritable maître, c'est Heinlein.
Ouais. Alors, pourquoi? Ça, c'est la question.
Vous avez combien de jours devant vous?
Là, 10 minutes.
Non, mais en fait, enfin, est-ce que c'est vraiment à moi de le dire?
Parce qu'après tout, il y a d'autres écrivains.
Mais non, mais
vite fait, il y a d'autres écrivains qu'on considère comme majeurs, exactement à la même époque. Ça va de Jack Vance à Ray Bradbury. Pourquoi Heinlein?
Ouais, bah, tu viens de citer deux écrivains, Jack Vance et Ray Bradbury, qui pour moi font partie d'une SF de colorisation, d'esthétique, de rapport au monde, alors que tu as un auteur au milieu qui est central de science-fiction, central où l'idée de science et l'idée de science-fiction, la démarche est centrale, c'est Heinlein. Ce qui n'enlève rien à la qualité de Jack Vance, qui est un explorateur merveilleux.
J'ai fait exprès de les citer tous les deux. Ouais. Hein.
Et Bradbury, pareil, mais bon.
Je vais le dire tout simplement. Je regrette qu'ici, il y ait une chaise vide où il y aurait dû avoir Éric Pichol, mon co-auteur sur Solutions satisfaisantes. Qui aurait pu me taper dessus si je disais une bêtise, mais parce que c'est le meilleur, c'est tout. Parce que c'est le meilleur, et c'est celui qui, dans une sorte de sérendipité extraordinaire et qui arrive parfois en littérature, est arrivé là où il fallait au bon moment. Ouais. Et a fait tous les efforts systématiques qu'il fallait pour créer une communauté d'auteurs de science-fiction dont le rôle premier était de divertir utilement le public en leur expliquant ce qu'est la science, la technique et pourquoi une culture scientifique est nécessaire à tout citoyen digne de ce nom. Donc Heinlein, c'est le seul
à avoir... C'est le Jules Verne des années 50.
Non, c'est plus ça. C'est plus fort que ça, je pense. Voilà, là, je suis désolé, mais c'est plus fort que ça.
C'est beaucoup plus fort que ça.
C'est pas simplement la didactique des sciences, c'est aussi l'apprentissage et la propédeutique de la citoyenneté, Heinlein. Alors, pour les Américains, parce qu'il a d'abord écrit pour les Américains, il a été traduit, etc., mais il a d'abord écrit pour ses compatriotes. Mais il a montré que culture historique et culture politique sont indissociables pour toute personne qui se prétend être un honnête homme, c'est-à-dire quelqu'un capable d'être un acteur de sa société. Voilà. Et ça, c'est Heinlein, et on peut aller chercher partout. Aucun autre auteur n'a fait aussi bien que lui sur ce point-là. Après, il y a des tas d'auteurs brillants, il y a des tas d'auteurs qui... Moi, j'ai un auteur qui me fascine, que j'adore, qui est mon auteur le plus... qui est Gordon Smith, avec Les Seigneurs de l'instrumentalité, que je trouve le cycle le plus brillant, le plus fin. Mais j'admets moi-même que Gordon Smith, en tant que maître, n'a pas l'amplitude, hein, le spectre le plus large que Heinlein a pu, sans jamais commettre de véritables fausses notes, remplir et donner au public.
Quoi. Mais n'est-ce pas parce que Gordon Smith a beaucoup moins écrit qu'Heinlein? Est-ce que toute proportion gardée...
Mais non, Heinlein n'a pas tant écrit que ça non plus. Hein. À toute proportion gardée, il a écrit beaucoup, mais je veux dire, il n'est pas ultra prolifique par rapport à d'autres. Je pense que l'une des choses que j'essaye de faire extrêmement modestement, c'est d'écrire utile, c'est-à-dire d'apporter des choses. Heinlein, c'était... on dit parfois, c'est pas un styliste, mais si, parce que aussi, sur le style, il mettait le style en adéquation avec le projet du texte, quoi. Et l'inversion de point de vue, la question de la gestion des points de vue, la question de la structure du... C'était le meilleur, enfin voilà.
Là, on commence à parler un peu de littérature aussi, finalement, et c'est très intéressant. Je crois qu'avant Heinlein, la science-fiction est beaucoup une littérature du décor. du contexte dans lequel l'histoire se passe. Avec Heinlein, la science-fiction devient de la littérature à part entière. Et Heinlein s'intéresse au ce que les Américains appelleraient process, comment on peut dire, aux procédures, aux choses, aux processus. Avec Heinlein, les personnages commencent à interagir entre eux de manière extrêmement intéressante. Leur psychologie se développe largement. Les personnages commencent à interagir avec leur environnement, avec des environnements de science-fiction. Et ça, la science-fiction devient véritablement adulte. Ce qui ne veut pas dire qu'avant elle était infantile, je veux dire, mais Heinlein a systématisé ça, et c'est pour ça que tous les gens à l'époque lisaient ses textes en ouvrant des yeux comme ça, et c'est pour ça qu'il y a vraiment une SF avant Heinlein, une SF après Heinlein, et il a influencé tout le monde. Alors en France c'est moins évident parce que les Français ont retenu Starship Trooper et se disent ouais, Heinlein c'est un vieux con, c'est un facho, ce qui est une lecture d'abord politique totalement débile. Il y a des tas de textes d'Heinlein où on pourrait dire ouais, c'est un sale gaucho. Ce que disait Philippe Dick, d'ailleurs.
Étrangère,
donc c'est on commet l'erreur de ne pas savoir ce qu'est le libertarisme, par exemple. Enfin, sans entrer dans les détails, Heinlein n'était pas du tout ça. C'était un écrivain américain de son temps. Et d'ailleurs, c'est le fait que sa littérature soit la littérature des processus et des choses évolutives, on le voit. Par exemple, il y a un certain nombre de nouvelles d'Heinlein qui se passent dans des endroits comme dans des tribunaux, par exemple. Des choses se débattent dans des tribunaux. Il y a des Il n'y avait pas ça avant. Enfin.
Et juste un dernier mot, mais
là, c'est la première fois que je vois Jean-Claude ne pas réussir à prendre la parole.
Un dernier mot, parce qu'on a parlé du style tout à l'heure. Il disait, Francis, que Asimov était illisible. Moi, je disais que ça venait aussi peut-être d'un problème d'actualisation des traductions. Mais il y a un truc, par exemple, un texte de science-fiction doit vous emporter ailleurs en quelques lignes, Il faut que ça bouffe, ça parte. Tchac, vous êtes ailleurs. Vous relisez Starship Troopers, qui a été écrit en 1959, et dont la traduction n'a pas été plus que ça révisée. Vous lisez, mais faites l'expérience, il doit être quelque part là-bas. Vous lisez que les 5 premières pages. Quand même, histoire de dire. Les 5 premières pages, et vous venez me dire, je suis là, vous venez me dire si vous n'avez pas l'impression que c'est un truc qui a été écrit hier. Et là, c'est quand même la marque aussi d'une grande maîtrise narrative. Voilà.
Il y a aussi une chose dans le cas particulier d'Heinlein qui est extraordinaire, c'est que les personnages Heinlein, c'est moi, c'est vous. Alors que les personnages Asimov, ce sont des gens qu'Asimov a créés, mais avec lesquels le sentiment d'empathie n'est pas le même. Heinlein, en particulier dans ses juvéniles, mais pas seulement, c'est quelqu'un qui disait...
Je ne suis pas sûr qu'Hugo soit d'accord.
Quoi ?
Je ne suis pas sûr qu'Hugo soit d'accord.
Sincèrement, Heinlein, c'est frappant de ce côté-là, en particulier au niveau des juvéniles. Il prenait quelqu'un qui était vous et il disait, voilà, il peut arriver ça, et à la limite, si tu le décides, si tu fais ton acte citoyen de toi-même apporter ta réflexion, tes compétences, tes pensées, tes connaissances dans le sujet, tu vas pouvoir le faire. Alors que ce n'était pas quelque chose que les autres écrivains disaient. Ils disaient, il y a une catégorie de gens, ça s'appelle les héros. C'est pas vous, mais vous allez les regarder, vous allez être des fans. Mais ce sont des héros. Heinlein, il disait, non, c'est vous. C'est vous le cœur du sujet. C'est vous qui allez faire les choses. Le futur est ce que vous en ferez. Vous voyez ? Et ça, c'était pas du tout la démarche, par exemple, européenne. Parce qu'il y a eu deux choses qui sont passées, qui ont été assez différentes, qui a permis à Heinlein de jouer le rôle qu'il a joué aux États-Unis, et on n'a pas eu l'équivalent en France. En Europe, on a eu deux guerres, ce qui fait que ce qui aurait pu former un embryon de communauté a été éparpillé par les guerres, et on n'a pas eu ce phénomène de fandom, ce phénomène de communauté en Europe. Ça ne s'est pas produit, ça s'est produit de manière très locale, mais on n'a pas eu quelque chose qui, au niveau du territoire européen, se traduisait par des échanges. Alors qu'au niveau des États-Unis, c'est quelque chose qu'ils se sont empressés de créer et sur lequel ils ont contribué, véritablement. Ils ont fait ce travail-là. Et ils avaient en plus des revues qui servaient de lieu d'échange, de lieu d'expression. Et d'autre part, il y a eu une espèce de conscience collective de « le monde est en train de changer ». La Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique a entraîné un certain nombre de changements. Nous devons préparer ce que sont nos concitoyens, nos compatriotes, nos citoyens à cette émergence, et en leur fournissant peut-être des outils de réflexion pour qu'ils bâtissent eux-mêmes le futur sans oublier cette dimension-là. Et ça, c'est quelque chose qui était une espèce de démarche collective où chacun en a pris conscience, et Heinlein a été littéralement le point focal de tout ça. Non seulement à travers ce qu'il écrivait, non seulement à travers ses juvéniles, mais à travers aussi les échanges qu'il a pu avoir avec un certain nombre de gens. Et il a eu une descendance sur ce plan-là qui a été énorme. Et même encore, il y a des gens qui s'inspirent de lui en disant « Nous pouvons changer le monde. Sans Heinlein, il n'y a pas Heyerdahl. »
Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'était la question suivante. C'est quoi la descendance d'Heinlein ? Donc déjà, Heyerdahl.
Obama.
Qui d'autre ?
Non, mais typiquement, oui. Oui, ce genre d'approche, oui.
Dans les écrivains
La descendance, Frédéric Pohl n'aurait pas été Frédéric Pohl sans Heinlein, clairement, je veux dire, il le dit. Mais il y en a tout un tas de... Il n'y a pas d'écrivain américain, à un moment donné, des années, disons, jusqu'aux années 70, qui n'ait pas, à un moment donné, dit, quand même, Heinlein, il nous a dit quelque chose, ça mérite réflexion, tu vois ce que je veux dire.
Mais est-ce qu'il a une influence aussi en dehors des écrivains de science-fiction, dans les écrivains de romans contemporains américains? On peut la voir. Ou qui s'est revendiqué d'Heinlein?
Il était revendiqué d'Heinlein directement. Pas, il était en lien avec les éléments de la littérature américaine les plus avant-gardistes à une certaine époque, notamment à l'époque de la Manana Literary Society, la société littéraire de demain, où justement il constituait à la fois une équipe, un groupe d'auteurs de science-fiction qui allait devenir des auteurs de science-fiction, mais qui était très en prise avec la littérature à proprement parler. À
tu peux donner des noms?
Mais j'ai un trou au niveau Anthony Boucher, mais Anthony Boucher était déjà dans le milieu de la science-fiction. Faudrait que je réfléchisse, mais en tout cas il ne se fermait pas la porte, hein, il n'était pas fermé au milieu stricto sensu de la science-fiction. C'était ce qu'il voulait promouvoir, c'était la capacité de la science-fiction à parler du présent, mais il était ouvert à la littérature, à la politique, il était engagé en politique, etc. Mais pour revenir sur la question des de la descendance, ma foi, même mais ceux qui...
Tous les écrivains qui aux États-Unis publient ou publiaient chez Bain Books ou dans Destiny's, New Destiny's, et tous ces gens qui se retrouvent massivement en Ailleurs et Demain, Charles Sheffield, tous des gens comme ça, c'est évident que c'est tout la descendance d'Heinlein. Enfin, je veux dire, toute la science-fiction américaine intéressante, quelque part, doit à Heinlein. Greg Egan, hein, pour citer un Australien qui apparemment... tiens, pourquoi il parle de Greg Egan? Ça me semble évident que Greg Egan, c'est une espèce d'Heinlein d'aujourd'hui, même sauf qu'il n'a aucune influence parce qu'il est trop génial, donc personne n'est capable de faire ce qu'il fait.
Et puis pas seulement science-fiction, il y a au moins deux exemples que je peux citer de gens qui sont directement en filiation d'Heinlein et qui d'ailleurs d'une certaine façon se revendiquent. Le premier, c'est au moment du mouvement EPI, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelait Do It, qui s'appelait Jerry Rubin, et il est typiquement heinleinien dans sa démarche, et d'ailleurs à un moment donné il le cite. Et il y a une autre personne qui s'est inspirée d'Heinlein, c'est Don DeLillo. L'étoile de Ratner, par exemple, un certain nombre de choses comme ça, sont clairement en démarche d'Heinlein avec une démarche qui relève du même procédé, si je puis dire. Donc il a eu un rayonnement au niveau de la littérature beaucoup plus vaste que la simple science-fiction.
Mais je pense que Jerry Rubin, si tu veux, c'est l'aspect anti-étatique de la littérature d'Heinlein qui l'intéressait. Ceci dit, n'oublie pas que Jerry Rubin a très mal tourné, il s'est coupé les cheveux, il est rentré à la bourse et il est devenu une star de la bourse new-yorkaise. Mais c'est vrai que dans Do It, il cite Heinlein, effectivement, et toute une partie de la contre-culture américaine de cette époque-là cite Heinlein, hein, comment ça s'appelle en français, En terre étrangère, était un des livres, souvent ce qu'on appelait les hippies à l'époque, beaucoup de gens citaient ce bouquin.
D'ailleurs, on dit qu'à Woodstock, tout le monde en avait un dans sa poche. C'est peut-être un peu exagéré.
Mais il y a aussi l'influence qu'il a eue sur les scientifiques, hein, faut pas oublier. Hein. Il a été aussi un déclencheur de... En fait, c'est une table ronde sur Heinlein, donc encore en fait. Hein.
Ouais, en fait.
D'accord. Il a aussi été déclencheur de vocation scientifique en montrant, ce qu'a dit très bien Jean-Claude tout à l'heure, en montrant des personnages qui se débrouillaient par eux-mêmes grâce à leurs connaissances scientifiques, grâce à leurs règles à calcul, et grâce à leur capacité à prendre les problèmes qu'ils avaient affrontés de façon rationnelle et scientifique. Il a aussi suscité des vocations d'ingénieurs en particulier, parce que c'est pas que les scientifiques, que les chercheurs. Hein. C'est aussi une figure importante chez Heinlein, la figure de l'ingénieur, celui qui met les mains à la pâte. Et qui, voilà. Et donc, il a aussi influencé pas mal de jeunes lecteurs avec ses juvéniles,
Citoyens de la Galaxie. Les romans pour la jeunesse.
Voilà, les romans pour la jeunesse chez Scribner, qui ont aussi créé des vocations d'ingénieur. Il y a une ingénierie, tu disais le processus, ce qui permet d'arriver à un résultat. C'est une série d'étapes successives où il faut pratiquer, pas simplement parler de science, mais la pratiquer. Et ça, il a eu une grande influence sur ça. C'est un des auteurs qui a le plus peut-être suscité de vocation d'ingénieur.
Oui, il ne faut pas oublier que dans la science-fiction, en fait, le savant n'a jamais nécessairement été un personnage positif. Au contraire, c'était plutôt un savant, c'était en général un savant fou. Ou alors quand c'était un savant qui n'était pas fou, qui était du côté du bien, c'était un type assez chauve, en blouse grise, qui n'était pas du tout sexy, et qui, en général, était un des premiers à mourir. En général, sa fille était jolie. Mais par contre, l'ingénieur, c'était un type relativement musculeux, plutôt beau gosse, mais un côté assez viril, sentant bon le cambouis, en salopette, et puis qui, à un moment donné, quand il fallait plonger les mains dans les entrailles du moteur pour relancer la propulsion hyperluminique, le faisait. Et le faisait avec une démarche un petit peu pragmatique du genre « je sais, maintenant je vais appliquer ce que je fais ». Et la démarche de « j'applique ce que je sais et j'applique ce en quoi je crois », ça a été d'une certaine façon l'apport d'Heinlein à la science-fiction, peut-être la plus évidente. Le côté « transformons nos pensées, nos envies, nos désirs et nos connaissances en procédures opérationnelles ». La notion de « process » dont parle Francis, c'est véritablement ça, c'est « on peut le faire ».
C'est pour ça d'ailleurs que plus que jamais, il a un rôle à jouer dans l'éducation, et que les juvéniles d'Heinlein retraduits et disponibles en livre de poche sont un outil pédagogique que l'éducation nationale et ses acteurs nombreux seraient et déjà d'une certaine manière bien inspirés d'utiliser. Parce qu'aujourd'hui on parle souvent du problème de la culture scientifique chez les jeunes et de la culture historique d'ailleurs qui moi me touche en particulier aussi et qui sont toujours insuffisantes. Et je disais dans la journée des professionnels avec des bibliothécaires que la science-fiction pouvait aider à réinventer l'histoire, réinventer au sens juridique, c'est-à-dire redécouvrir, hein, inventer comme découvrir. Les juvéniles d'Heinlein peuvent aider les jeunes, les adolescents d'aujourd'hui à redécouvrir la science. Et que c'est un outil et que finalement toutes ces traductions, c'est pas simplement pour rééditer quelqu'un, c'est aussi parce que c'est ça quand même le but, hein, de montrer que en quoi la science-fiction, en quoi les maîtres de la science-fiction ont-ils... Pourquoi les rééditer aujourd'hui? Pourquoi les mettre aujourd'hui? Pourquoi en parler aujourd'hui? C'est pas simplement pour se faire plaisir parce que ce sont des auteurs et des grands auteurs et qui nous ont marqués, etc. C'est pas le plaisir uniquement. La science-fiction n'a jamais été, à mon sens en tout cas, exclusivement centrée sur le plaisir. Elle est un plaisir avant tout, mais elle est aussi quelque chose d'utile, hein, quelque chose d'instrumental. Et l'instrument que représente la science-fiction, plus que jamais aujourd'hui, il est utile. Et il est, Heinlein, dans ses juvéniles, il faudrait qu'il soit étudié.
Il y a un auteur dont on n'a pas du tout parlé. Il nous reste très exactement 120 secondes. un auteur dont on n'a pas parlé, parce que là, il y a un vrai consensus sur Heinlein, il n'y a pas photo, c'est Philip Dick. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut lui donner le titre de maître
Il est très tardif. Ça, tu me parles des premiers maîtres de la science-fiction. Oui, Philip K. Dick, je veux dire,
pour l'après Heinlein.
Dick est central, évidemment. Ouais. Enfin, je veux dire, qui parmi vous, là, lecteur de science-fiction, n'a jamais lu du Dick? Levez la main. Voilà, un là-bas au fond qui passe.
Sortez, je vous.
Ouais.
Voilà, mais sinon ceux qui sont là, qui êtes venus, pourquoi vous êtes venus aux Utopiales? Pourquoi vous avez payé votre billet d'entrée
pour
voir des gens qui parlent, pour voir des expositions magnifiques, pour avoir la plus grande librairie de science-fiction de France,
pour écouter des écrivains débattre?
C'est parce que vous avez lu Philip K. Dick, entre autres. Voilà, donc la question se pose même pas.
Je voudrais citer un nom juste. Il nous reste 15 secondes. Il y a un écrivain dans les années 30 qui a été perçu aux États-Unis comme dans les années 40 et 50 on a perçu Heinlein. C'est Stanley Weinbaum. Stanley Weinbaum, qui n'est pas très connu en France, parce qu'il y a longtemps, il y a eu un roman de lui, traduit très mal, et ce n'était pas un très, très bon roman non plus, mais c'est quelqu'un qui a fait des nouvelles assez exceptionnelles. Il y a quelques années, il me semble que j'avais, dans mon mail, reçu un message de quelqu'un, un particulier, qui avait tout retraduit, qui avait auto-édité, donc ça doit pouvoir se trouver quelque part. Quand on lit les courriers des lecteurs, des pulses de science-fiction états-uniens de l'époque, on prend compte à quel point les gens rendaient hommage à cet écrivain et même les éditeurs qui sont arrivés après, enfin Campbell, tout ça, des tas de gens expliquent que ça va surprendre les Français parce qu'on ne le connaît pas ici, mais ça a été vraiment quelqu'un d'extrêmement important aussi. Ça a vraiment été un maître qui a influencé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et puis je voudrais juste citer deux noms français. Non dans les précurseurs, mais dans les gens actuels, parce que j'ai envie de me faire plaisir en citant deux noms de gens que j'aime bien. Je pense que toute la science-fiction, tous les écrivains de ma génération, en tout cas des années 70 et 80, on serait pas là s'il n'y avait pas eu Michel Jury. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs aujourd'hui, des gens qui écrivent depuis une dizaine d'années, qui seraient peut-être pas là s'il n'y avait pas eu Serge Lehmann, quelque part, je pense aussi.
C'est vrai aussi, oui.
Voilà.
Moi, j'y serais pas. Hein. Sans Jury et Lehmann, j'y serais pas, je serais pas là.
Michel Jury, c'est quelqu'un qui a accueilli en 1982 deux écrivains en herbe et débutants qui avaient sorti deux nouvelles chacun. Il s'appelait Richard Canal et moi-même. Et il nous a accueillis dans sa maison, là, il était en Dordogne. Et il nous a dit, ben voilà, bonjour collègue, on s'assoit, on boit un coup et on parle. Et nous, on avait 50 pages derrière nous, il avait 50 bouquins, et il nous a accueillis.
Et il est toujours aussi charmant.
Et pour en dire encore un mot de Michel Jury, tant pis si on dépasse, mais pour parler Michel Jury, on va dépasser quand même deux secondes encore. Mais c'est un humaniste merveilleux, quoi, un type d'une gentillesse et d'une culture. Et il est venu à la convention à Nyons, il était...
Mais attendez, il a quand même écrit Mais le monde, qu'il a publié l'année dernière, qui a quand même mis une gifle à tout le monde. Parce que la force aussi des grands maîtres, c'est de temps en temps de ressortir de leur retraite et de dire, bon, les petits jeunes, va falloir que je vous explique quelque chose, et de balancer un bouquin qui colle une fessée à tout le monde en disant, d'accord, il va falloir qu'on travaille.
Retraite toute relative, parce que si le roman de terroir n'est pas ce qu'on peut qualifier de littérature, de forme de littérature la plus enthousiasmante qui soit actuellement, les romans de Michel Jury sont quand même vraiment des livres tout à fait intéressants. Bon ben on est en train de se faire expulser. En tout cas, je vous remercie d'être venu nous écouter, puis je remercie surtout nos auteurs pour leur enthousiasme et puis tout ce qu'on a appris. Vous les retrouverez d'ici très peu de temps en dédicace et je vous conseille d'aller faire un petit tour avec eux parce qu'ils écrivent des choses absolument merveilleuses.